Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre intérêt et vous salue pour la quatrième et dernière leçon sur la question de savoir si la sécularisation est une exception européenne ou s'il s'agit d'un processus mondial. Dans les cours précédents, nous avons vu qu'on trouve des phénomènes de modernisation et sécularisation en Europe comme sur d'autres continents. En même temps, nous avons observé que les contextes et processus peuvent varier et qu'il y a d'importants contre-exemples et exceptions. À partir de ce constat, une large discussion a émergé autour de la question si nous devions imaginer que la modernisation et sécularisation sont des phénomènes globaux et uniques, ou bien s'il s'agit de multiples modernités, multiples sécularisations. Et c'est cette question-là qu'on traitera dans cette leçon. Pour aborder cette question, je vais d'abord examiner l'arrière-fond théorique de la discussion ainsi que cinq problèmes théoriques et méthodologiques qui se posent quand on veut traiter du sujet. Ensuite, je vais vous présenter deux tests récents empiriques qui essaient d'attaquer le problème. L'idée des modernités multiples a été proposée par Shmuel Eisenstadt. Il écrit, je cite, « La modernité s'est en effet étendue à la majeure partie du monde, mais n'a pas donné lieu à une seule civilisation, ni à un seul modèle institutionnel, mais au développement de plusieurs civilisations modernes, c'est-à-dire de civilisations qui partagent des caractéristiques communes, mais qui ont pourtant tendance à développer des dynamiques idéologiques et institutionnelles différentes, même si elles sont apparentées. » Donc, à partir de là, une immense littérature autour de « multiple modernities ». Cette idée a quelque chose de convaincant, ça doit être vrai d'une certaine manière. On va dans d'autres pays, même très modernisés, et on voit tout de suite que les choses sont très différentes. La culture semble être différente. Et si on regarde notre définition de modernisation, on voit aussi que nous avions défini modernisation comme processus qui mène les sociétés vers un niveau de plus haute complexité technologique, institutionnelle et culturelle. Il y a là trois choses, technologique, institutionnelle et culturelle. Il se pourrait donc déjà dans notre définition qu'on aurait une modernisation qui aurait toujours le même dosage de modernisation culturelle, technologique ou institutionnelle, mais il se pourrait aussi que dans différents pays, nous aurions différents dosages. Donc ça pourrait être le cas que dans un pays, il y aurait plutôt une modernisation culturelle, dans un autre, plutôt une modernisation technologique. Toutes sortes de possibilités sont possibles. Même chose dans la sécularisation. Nous avions défini la sécularisation comme un déclin de la religion sur le niveau individuel, organisationnel et sociétal. Mais peut-être que dans une société, ce serait surtout un déclin sur le niveau individuel et dans une autre société, plutôt sur le niveau organisationnel. Donc là aussi, on pourrait imaginer des sécularisations multiples. Donc, c'est une question, c'est tout à fait possible, et pour nous, ce sera une question empirique. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les faits, quand on mesure les faits? Maintenant, avant que j'entre là-dedans, j'aimerais vous parler d'une chose qui est importante. Quand on a une question de classification, c'est-à-dire de combien de types ou de classes nous voulons distinguer, il est important de comprendre la chose suivante. Il s'agit d'une question de l'abstraction du modèle. Puisque la réalité est infiniment complexe, c'est en grande partie notre décision de combien de types nous voulons créer. Juste pour clarifier les idées, on a 9 objets. Combien de types d'objets est-ce que vous voyez? Combien de types? Petit sondage, donc qui voit 3 types? 3. Qui voit 2 types? Oui. 1 type? Ok. Donc là, aucun des objets est similaire. Hein. Donc, vous auriez pu me dire, il y a 9 types là, puisque les 9 sont différents quand même. Mais peut-être que vous aviez, la plupart d'entre vous ont dit, les petites différences de taille ne sont pas importantes, on va les négliger. On va dire qu'il y a 3 types. trois types, les carrés avec les coins comme ça bien définis, les coins arrondis et puis les triangles. Mais vous auriez pu dire, la question des coins n'est pas très importante, je vais négliger cette différence. En fait, il y a deux types, des rectangles et les triangles. Mais vous auriez aussi pu dire, au fond, peu importe combien de coins, c'est un type. Donc, plus vous allez vers l'objet, plus vous voyez de types, plus vous faites abstraction, moins de types vous voyez. C'est la question de notre abstraction qui est importante. Maintenant, à partir de là, problème méthodologique. Et je vais en parler de cinq problèmes méthodologiques. Si nous voulons savoir est-ce que la sécularisation ou la modernisation est une ou multiple. Un premier problème est vu par des scientifiques qui nous rappellent à l'aide de recherches généalogiques que les concepts de modernisation et sécularisation et religion ont été créés en Europe, en Occident en général. D'importants classiques dans cette mouvance sont par exemple Edward Said, Tal al-Assad, qui utilisent des figures de pensée de Friedrich Nietzsche et Michel Foucault. Et ils disent en gros, puisque ces concepts, donc religion, sécularisation, séculier, ont été créés en Europe, une définition de ces termes valable pour des civilisations non européennes ou prémodernes est impossible. Et utiliser ces concepts pour décrire de telles sociétés est eurocentrique et néocolonialiste. Si on utilise ces termes pour ces sociétés, ce serait mécomprendre et d'opprimer des cultures non européennes. Que penser de cet argument? Il est très fort, cet argument, en ce moment. Il y a toutes sortes de discussions autour de ça. Moi, j'avoue de ne pas être convaincu par la méthode généalogique utilisée par ces auteurs. Elle est seulement négative, elle déconstruit sans reconstruire. Elle questionne même l'utilité de la recherche de la vérité scientifique en voyant rechercher la vérité juste comme une autre stratégie de pouvoir. Donc, pour moi, même si une sécularisation unique existait, si on commence comme ça, on ne va pas l'avoir. Pour l'approche dite de sociologie analytique que je défends ici, la généalogie d'un concept ne dit rien sur son utilité. Il est donc certainement utile de se poser des questions sur la fécondité et les possibles biais des concepts utilisés, mais on ne devrait pas se faire aider par les généalogistes. Deuxième difficulté, il est évidemment difficile de mesurer la religiosité de manière comparable dans différents pays du monde. Si se rendre au culte est un indicateur valable pour le christianisme, quel est l'indicateur comparable dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme? Ces problèmes sont réels, mais à mon avis, des problèmes pratiques qui peuvent être en principe résolus. Et je vais vous donner des exemples de comment on essaye de les résoudre. Troisième problème, il est possible que nous ne puissions pas répondre à nos questions puisque nous avons affaire à un problème d'indétermination du modèle. Ce problème est donné si nous avons peu de cas, mais beaucoup de variables. On parle du small n problem. Idéalement, nous aurions à disposition un nombre infini de pays dont les valeurs sur les variables indépendantes et dépendantes se répartiraient sur toute la gamme des possibilités, mais dans les faits, nous n'avons que 195 pays. Et ils sont répartis très inégalement sur les différentes variables. Cela nous crée des problèmes, comme vous allez voir dans un instant, très importants. Par exemple, il est possible qu'une forte modernisation et démocratisation des pays musulmans mène à la sécularisation, mais nous n'avons tout simplement pas encore de cas réalisés d'un pays musulman qui se serait tellement fortement modernisé et démocratisé pour qu'on puisse observer si dans les faits c'est vraiment le cas. Quatrième point, problème pour beaucoup de pays non occidentaux, des données longitudinales mesurant la religiosité de manière valide à travers plusieurs points dans le temps n'existent simplement pas. Pour les pays où des données longitudinales existent, celles-ci commencent normalement dans les années 1980. Donc nous avons peu de données et pour certains pays encore moins. Cinquièmement et finalement, nous avons, ça aussi c'est un problème très important, nous sommes confrontés à un problème de non-indépendance des cas. On parle du problème de Galton. Dans un monde idéal pour les chercheurs, chaque pays serait isolé des autres comme dans un laboratoire. Donc chaque pays, on l'isolerait et on changerait nos variables indépendantes, quelque chose arriverait, on pourrait mesurer la variable dépendante. Mais dans les faits, ce n'est pas comme ça. Dans les faits, un pays A peut influencer un autre pays B et sa sécularisation. Donc il se peut qu'un pays A peut contraindre un pays B pour se séculariser. Ou bien un pays B peut voir un pays A comme modèle et essayer de l'imiter. Ou bien la sécularisation peut diffuser d'un pays A vers, à travers les médias, mass media par exemple, vers des pays B. Donc là aussi, un problème important de méthodologie. Il faut savoir que ce problème existe toujours, et même pour la sécularisation en Europe, on a le même problème. Donc là aussi, on a les sécularisations des différents pays se sont influencées de manière multiple. Les problèmes sont donc importants et multiples, mais souvent pas insurmontables. Regardons donc le premier test qui essaie d'investiguer si la modernisation-sécularisation est unique ou multiple. Le premier test que je présente ici peut être extrait des recherches de Ronald Engelhardt et Christian Welzel, deux des livres importants pour nous sont « Modernization, Cultural Change and Democracy » et « Religion's Sudden Decline ». Ces chercheurs utilisent le World Value Survey, que nous avons déjà vu, qui effectue des sondages représentatifs sur les conditions de vie et les valeurs des personnes dans un grand nombre de pays dans le monde. Le World Value Survey est en ce moment dans sa septième vague. Il tourne depuis 1981 et a déjà été conduit au moins une fois dans 105 pays. Utilisant leurs données, Engelhardt et Welzel cherchent la manière la plus simple de représenter les valeurs des personnes dans le monde. Et donc, il faut, pour comprendre ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent beaucoup de questions sur les valeurs, et font une analyse factorielle et trouvent des dimensions sous-jacentes. Donc, ils cherchent à réduire la dimensionnalité des données pour trouver d'importantes dimensions de valeur à l'arrière-fond. Et ils trouvent deux grandes dimensions de valeur. Et ces deux grandes dimensions de valeur sont le traditionnalisme versus le sécularisme-rationalisme et de l'autre côté, les valeurs de la survie versus les valeurs de l'expression de soi. Par exemple, une personne avec des valeurs traditionnelles, selon Engelhardt et Welzel, va trouver que Dieu est important, va vouloir enseigner de l'obédience et la foi religieuse à un enfant et sera orgueilleux de sa nationalité. Une personne qui aura des valeurs sécularistes, rationnelles, sera juste le contraire. Donc, trouvera Dieu pas important dans sa vie, ne voudra pas enseigner aux enfants de respecter l'autorité et sera peu orgueilleuse de la nation. Valeur de survie versus valeur d'expression de soi. Une personne qui prend les valeurs de survie comme importantes donne priorité à la sécurité économique et physique et trouvera l'expression de soi et la qualité de vie peu importante. Donc deux grandes dimensions. Il y a beaucoup plus de items, questions qui mesurent ces valeurs, mais ça, c'est les deux grandes dimensions. En plus, Engelhardt et Welzel distinguent 8 clusters ou groupes culturels de pays. Ces clusters ont un patrimoine culturel et religieux commun, et ils distinguent Protestant Europe, Catholic Europe, English-speaking Confucian, Orthodox Europe, Latin America, African Islamic. Avec ces deux dimensions de valeur et ces 8 clusters, Engelhardt et Welzel construisent une carte des valeurs mondiales. Et peut-être que vous l'avez déjà vu une fois, Donc, vous avez ici, première dimension, valeur de survie et valeur expression de soi. Ici, deuxième dimension, vous avez les valeurs traditionnelles et valeurs rationnelles séculières. Et les différentes, chaque pays, vous avez différents pays, le Danemark ici, la Suède, le Ghana, le Qatar, Jordanie, Maroc. Donc chaque pays, pour chaque pays, vous prenez la moyenne sur ces différentes dimensions de valeur et ça donne une position. Et puis une chose intéressante qu'on voit empiriquement, c'est que différents pays avec différentes traditions historiques et souvent aussi géographiquement proches se trouvent proches sur la carte des valeurs. Donc le Danemark se trouve proche de la Suède, proche de l'Allemagne, et tout ça, ça donne donc Protestant Europe. Ici, vous avez le cluster African Islamic. Ici, vous avez l'Europe catholique. Et donc, le Protestant Europe, très clairement, a des valeurs très fortement self-expression, donc expression de soi, est très rationnel, séculariste, tandis que African Islamic, ici, ont des valeurs très survie et traditionnelle. À l'arrière-fond, vous voyez une sorte de modernisation ici. Donc, on peut s'imaginer qu'avec le temps, des pays pourraient bouger de gauche en bas à droite en haut. Le World Value Survey permet des analyses multiples, mais pour ce qui nous intéresse ici, nous pouvons formuler donc deux hypothèses. La première hypothèse, donc, vous pouvez imaginer, admettons qu'il y a une modernisation, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le temps si ces pays se modernisent? Eh bien, ils devraient bouger, les pays devraient bouger tous un peu de manière semblable, de gauche en bas vers en haut à droite. Tous devraient faire la même chose. Alors, si ça c'était le cas, ce serait de l'évidence pour une modernisation unique. Par contre, si chaque pays fait des choses différentes, ils vont avec une vitesse différente, dans différentes directions, alors on devrait dire que c'est des modernités multiples. Donc ça, c'est les deux hypothèses que je fais, hypothèse 1 et hypothèse 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Eh bien, c'est plutôt l'hypothèse 1 qui semble se vérifier. Dans le livre de Engelhardt, vous trouvez ici, donc ça c'est à nouveau cette carte en 2000, et ça, c'est la carte en 2017. Vous voyez ici Protestant Europe, Catholic Europe ici, Catholic Europe. Et vous voyez, de manière générale, les pays ont un peu bougé vers en haut et à droite. Et tous ont fait un peu la même chose, ou presque. Donc, Engelhardt écrit: The forces of modernization tend to move the countries that experience them upward and to the right on these cultural maps. But if all countries were moving in the same direction, at roughly the same speed, their relative positions would not change. So a cultural map from one decade would closely resemble a cultural map made two or three decades later. Donc, les pays et les clusters font en gros assez la même chose. Il est clair que ceci n'est pas, pour ainsi dire, un test total de la théorie des modernités multiples. On regarde seulement ce qui se passe à l'intérieur des valeurs et on ne touche pas aux possibles modernités multiples concernant la technologie et les institutions. Mais il me semble quand même que c'est des résultats intéressants. Donc il y a quelque chose là qu'on observe qui va dans un certain sens. Je vous présente le deuxième test. Donc ça, c'est le... Deuxième test, je vous présente une étude en cours que je suis en train de mener ensemble avec Conrad Hackett du Pew Research Center et Nandek de Graaf de l'Université d'Oxford. Vous verrez donc le savoir en train de se faire ou bien l'erreur en train de se faire. Ce n'est pas encore clair. Donc peut-être que vous aurez encore des idées pour améliorer ce qu'on fait en ce moment, mais c'est ça ce qu'on fait en ce moment. Vu que des données longitudinales sur le religieux n'existent pas dans beaucoup de pays, nous partons de deux idées simples. première idée est que nous avons affaire à une transition séculière mondiale qui commence pour chaque pays à un moment différent. Une fois que le pays atteint ce point de basculement, il traverse une transition séculière avec comme point final une population fortement séculière. Donc ça c'est notre idée de base. La transition séculière est causée par, on a vu ça dans les derniers cours, par un remplacement de cohorte. Et cela sera visible dans le fait que les jeunes seront moins religieux que les vieux. On pense aussi que si le pays est d'abord très religieux et cette transition séculière commence, les différences entre les jeunes et les vieux devraient devenir plus grandes, puis ça devrait basculer et puis devrait devenir de moins en moins importante jusqu'à ce que tout le monde soit séculier. Une deuxième idée est que les groupes ne se débarrassent pas d'un seul coup de tous les éléments de leur religiosité. Dans ce qui peut être reconstruit comme rationnel, les groupes abandonnent d'abord les éléments les plus coûteux. Au début du processus, ils renoncent à la pratique publique, car cela prend du temps et de l'énergie. Ensuite, ils abandonnent la religiosité personnelle, telle que la croyance, la prière personnelle ou l'idée que Dieu est important. Et finalement, ils abandonnent l'idée qu'ils ont une identité religieuse même. Ce faisant, ils auront des rationalisations. Ils diront, quand ils auront abandonné la pratique, ils diront « Ah, mais je ne pratique plus, mais Dieu est toujours important pour moi, personnellement. » Et quand ils auront quand ils auront abandonné la croyance, ils diront « Ah, mais je ne suis plus croyant, mais je suis toujours catholique, de manière traditionnelle, comme ça. » Mais dès qu'ils auront abandonné l'identité même, alors ce sera fini. Donc ils diront « Mais je ne suis plus rien. En tout cas, je ne suis plus rien, je n'ai plus d'affiliation religieuse. » De ce modèle, on peut à nouveau extraire deux hypothèses. La première, au cours de la transition séculière, les différences entre les cohortes et la religiosité devraient d'abord augmenter puis diminuer. Et hypothèse 2, au cours de la transition séculière, les différences de cohortes apparaissent d'abord dans la fréquentation, puis dans la religiosité personnelle et enfin dans l'affiliation. Voilà les données que nous utilisons. Donc nous utilisons les données du Pew Research Center. C'est des données sur 102 jusqu'à 106 pays. Ça, c'est les indicateurs de religiosité. Et les variables dépendantes sont créées de cette manière-là. Donc ce qu'on veut expliquer sont créées de la manière suivante. On distingue les vieux et les jeunes. Et les vieux sont les personnes de 40 ans et plus. Il y a plutôt des vieux, mais aussi certains jeunes, je dirais ici. Puis on calcule la fréquentation hebdomadaire, oui ou non. Donc combien de vieux pratiquent hebdomadairement et combien de jeunes pratiquent hebdomadairement, et puis on prend la différence. On fait la même chose pour voir la religion comme importante dans sa vie, prier quotidiennement, etc. La variable indépendante. Oui, je devrais dire quelque chose sur mesurer la religiosité. Donc, la fréquentation religieuse a été mesurée dans les enquêtes Pew avec des formulations légèrement différentes. Donc, pour les non-musulmans ici, c'est en dehors des mariages et des funérailles, à quelle fréquence assistez-vous à des services religieux ? Plus d'une fois par semaine, une fois par semaine, une ou deux fois par mois, quelques fois par an, rarement ou jamais. Pour les bouddhistes et hindous, on dit « allez dans votre lieu de culte ». Pour les musulmans, on dit « en moyenne, à quelle fréquence allez-vous à la mosquée pour la prière ?» Donc il y a des changements dans les formulations pour rendre les choses comparables. Ça reste difficile, mais c'est ça la stratégie qu'on utilise. Notre principale variable indépendante est la position d'un pays sur une trajectoire de transition séculière. Ce qu'on fait, c'est que pour chaque pays, on mesure la religiosité générale avec ces trois indicateurs et on fait la supposition que ça donne la position relative sur la transition séculière. Venons aux résultats. Notre première hypothèse avait prédit que, avec la transition séculière, ici donc imaginons que ça c'est le début de la transition séculière et ça c'est la fin de la transition séculière, les différences entre les vieux et les jeunes devraient d'abord monter et puis descendre. Et c'est exactement ce qu'on voit. L'hypothèse 2 avait dit que on devrait voir, ces différences devraient se trouver d'abord pour la fréquentation du rituel, c'est ce qu'on voit ici en bleu, ensuite avec la religiosité personnelle, c'est ce qu'on voit en vert, et puis concernant l'affiliation, et c'est ce qu'on voit en rouge. Donc il semble que ces données mondialement vont plutôt dans le sens des hypothèses. Si on regarde ça de plus près, ici vous voyez donc les pays, ici c'est en haut les pays au début de la transition séculière qui sont très religieux, Nigeria, Zambia. Ici les pays qui sont très loin de la transition séculière, donc Belgium, Sweden, Estonia, Czech Republic, China. Et ici à nouveau vous voyez les différences entre les vieux et les jeunes, en bleu c'est les différences de fréquenter le service religieux, en vert, les différences importance de la religion, et rouge, les différences affiliation religieuse. Et donc, vous voyez à nouveau ce même phénomène, d'abord fréquentation du religieux, ensuite importance de la religion, ensuite et affiliation. Ici, j'ai mis juste ces choses en... mis sur 100% pour... comme ça, on voit encore mieux. Maintenant, je dois vous avouer... je dois juste me repérer dans mes notes. Je dois vous avouer que j'ai un peu triché. À savoir que, on le voit pas, je n'ai pas mis tous les pays. Il y a un certain nombre de pays, ça ne se donne pas tellement bien, mais je vais vous expliquer. Ça, c'est les pays que j'ai mis. Mais j'ai exclu certains pays. Quels pays est-ce que j'ai exclu? J'ai exclu ici ces pays, les 15 pays les plus pauvres, je les ai exclus. Là, on voit peu de différence entre les vieux et les jeunes, voire des différences qui vont dans l'autre sens. Pour me défendre, je pourrais dire que la théorie dit que la transition séculière commence seulement à un certain moment. Peut-être dans ces pays, ça n'a pas encore commencé. Ça, c'est des pays que j'ai exclus ici. Ça, c'est des pays qui sont islamiques ou orthodoxes post-soviétiques. Pourquoi est-ce que j'ai exclu ces pays? Parce qu'ils ne marchent pas très bien, on ne voit pas les différences entre les vieux et les jeunes. L'explication serait que, comme on a vu la dernière fois, il y a eu dans ces pays une grande anomie sociétale, une crise sociétale qui a fait qu'il y a eu un retour du religieux orthodoxe nationaliste qui probablement a fait que ces pays ne suivent pas le modèle général. Finalement, j'ai encore 4 cas aberrants que je n'arrive pas très bien à expliquer. Mais dans tout modèle, vous auriez des cas qui ne marchent pas très bien. Quand on regarde les continents, ici vous avez l'Afrique, ici vous avez les Amériques, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ici, la transition séculière semble être en cours dans le monde entier. En général, à la fois, on voit donc à la fois la montée et la chute et la séquence tripartite qu'on voyait assez bien confirmée sur les différents continents. Par contre, on voit le problème du petit N. Donc les pays en Afrique sont pratiquement tous au début de la transition séculière. Et on n'a pas d'exemple ici. Les pays d'Europe sont tous un peu à la moitié ou à la fin de la transition séculière. On n'a plus les cas ici au début. C'est en Asie qu'on a plus de de différences. Donc, un peu toute la gamme est remplie ici. Mais on verrait que, de manière générale, le modèle semble marcher assez bien. Il est plus difficile de juger de l'importance de notre modèle lorsqu'on considère les différentes religions traditionnelles des pays. Donc, pourquoi donc on a la plupart des pays dans le Pew Research, dans nos données, sont traditionnellement chrétiens. On a aussi des pays traditionnellement musulmans, mais ils sont tous ici au début ou à la moitié de la transition séculière. On a peu de pays avec hindou ou folk religion ou bouddhisme traditionnellement. Donc, on a trop peu de cas pour dire quelque chose. Cette recherche a clairement des limites importantes. On peut se poser la question si les indicateurs sont adaptés. On a clairement un problème de petit n. L'interprétation temporelle des différences d'âge reste incertaine. Cela dit, je trouve que les résultats restent frappantes. Il semble que l'hypothèse 1 est vérifiée. Nous voyons donc cette séquence « attendance, personal religiosity, affiliation » comme le présidait l'hypothèse 2. Finalement, nous ne voyons pas de grande différence entre les continents et religions. Cependant, les pays post-communistes orthodoxes semblent clairement faire exception. Ajoutons, pour finir, une complication finale. Un argument parfois avancé contre la théorie de la sécularisation est que la religion continue de croître dans le monde et ne diminuera pas au cours des prochaines décennies, puisque les pays modernisés sont plus religieux, mais ont également une plus grande fertilité. C'est effectivement le cas. Ce graphique montre les pays avec la plus grande fécondité. Il s'avère qu'il s'agit également des pays qui montrent la plus grande religiosité. En gros, c'est le Global South. Donc ici, vous voyez le Children Born Per Woman 2019. Donc, c'est exactement les pays qui sont plus religieuses, qui ont plus de fécondité. C'est pour cette raison que les chercheurs du Pew Research Center arrivent à la conclusion que jusqu'à 2050, donc c'est les pronostics, le nombre de personnes affiliées à une religion va encore fortement augmenter, aussi bien de manière absolue que relative. Tandis que le nombre de personnes sans confession va rester stable en chiffre absolu et diminuer en chiffre relatif. Donc, ici 2010, 2050, donc les chrétiens vont de manière absolue croître, les musulmans vont croître encore plus, les sans religion vont croître juste un tout petit peu, tandis que de manière relative, si on prend les pourcentages, les chrétiens vont rester stables, les musulmans vont monter, et les personnes sans religion vont même décroître. Bien que ce scénario soit empiriquement probable, cela ne constitue cependant pas un argument contre la théorie de la sécularisation, car les deux mécanismes peuvent fonctionner simultanément. Nous arrivons donc à la conclusion générale. Eh bien, d'abord, je vous félicite d'avoir suivi ces quatre cours, mais qu'est-ce que nous avons appris ? Qu'est-ce que nous avons appris ? Eh bien, nous avons posé la question générale de combien de preuves empiriques il y a pour l'affirmation selon laquelle la sécularisation européenne était exceptionnelle. Vous vous souvenez qu'au début, il y avait ces chercheurs qui disaient « l'Europe, c'est en Europe la sécularisation, mais partout ailleurs, ça n'existe pas ». Qu'est-ce qu'on a appris ? Eh bien, nous avons appris, ça c'est le point principal, que la sécularisation européenne n'est pas exceptionnelle. Il n'y a aucun doute sur cela dans mon esprit. Puisque la théorie de la sécularisation orthodoxe prédit le niveau de sécularisation et le processus de sécularisation de beaucoup de pays européens et non européens, la modernisation et la sécularisation existent en dehors de l'Europe. Mais nous avons vu d'autres choses. Nous avons vu que la transition séculière pourrait être mondiale. Ça, on va en avoir vu aujourd'hui. Les pays semblent bouger de manière semblable vers plus de sécularité, rationalité et des valeurs expression de soi. C'était le premier test qu'on avait vu. Cette transition semble prendre la forme APA, Attendance, Personal Religiosity, Affiliation, ou fréquentation, importance de la religion, affiliation, c'est-à-dire qu'on abandonne d'abord la fréquentation du rituel, ensuite l'importance qu'on accorde à la religion, et puis finalement l'affiliation religieuse. On a ensuite vu que le processus est unique ou multiple selon l'abstraction recherchée par l'observateur. C'est nous qui pouvons, d'une certaine manière, dire si nous voulons voir plusieurs types ou un type. Nous avons vu que les retours du religieux existent et sont importants. On a vu les musulmans, les orthodoxes, le pentecôtisme. Mais ils peuvent souvent être expliqués par des mécanismes de réintégration individuelle, de défense culturelle contre des menaces et des besoins et de création de l'État. En général, ils ne semblent pas renverser la tendance générale pendant longtemps. La fécondité a l'effet que la religiosité est quand même encore en croissance. Si nous mettons tout ça en perspective, il est donc probable que le monde sera plus séculier à long terme. Il y aura moins besoin de sociologues de religion. Et sur cette note un peu triste, je conclus et je me réjouis d'entendre vos éventuelles questions. Merci.